Scarp Ciné, séquence 12. Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarp Sensé, ça tourne.
Et action! Bonjour à tous, c'est Scarp Ciné. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour une émission en pleine nature. À Paluel, entre Douai et Cambrai, le parc Écoland propose des hébergements dans la nature. Et dernièrement, une animation, une projection de film était proposée au public en présence du réalisateur Nikita Gwezel. Cinéaste indépendant, il transmet des messages de respect, de protection de l'humanité et de la nature. Carole l'a rencontré pour parler de sa série documentaire « Les guérisseurs du monde et la forêt des enfants ».
Des terriers au beffroi, le cinéma du Nord s'invite chez vous, sur Scarp Sensé.
Le chamanisme, c'est pas un métier, c'est pas une profession, c'est un style de vie. Soit t'es né pour être un chaman, soit tu l'es pas. Et moi, voilà, c'est comme ça que ça a tout commencé. Et là, ils m'ont donné le nom. Tereté Moanafa. Tereté Moanafa. The movement of the four waters. So the eternal movement of the four waters, that was the name that Maori Tohunga gave me. And he was right, I never stopped travel. I went from New Zealand to here, to New Zealand, then Peru, then Japan, then India, keep moving. Like the ocean moves constantly.
Bah, merci, je m'appelle Nikita Gwezel, je suis réalisateur indépendant, planteur d'arbres, fondateur du mouvement de la forêt des enfants, initiateur et fondateur de la forêt des enfants qui se structure en association actuellement. Alors mon premier film, il s'appelle Lavanderos, c'est avec des cueilleurs de plantes sauvages dans la Drôme, donc il dure 36 minutes, il est accessible gratuitement sur YouTube. Mon deuxième film, il s'appelle Carter, donc c'est sur les Carter, les maisons rondes en chanvre chaud sable, compostable, sculpté à la main, tourné à 80% on va dire en Bretagne, qui a été vu dans 36 pays. Celui-là, il a vraiment bien tourné dans le monde et en France aussi. Et ensuite, j'ai fait la série donc documentaire Guérisseurs du monde. Donc là, j'ai été rencontrer des ce qu'on appelle communément, en utilisant un terme générique, des chamans partout dans le monde, principalement en Amérique du Sud, mais aussi en Europe, et il y a des connexions qui se font avec la Mongolie, etc. Mais je laisse le chemin se faire et voilà, je force pas les rencontres. Donc c'est vraiment comment elles viennent sur ma route et avec les justes personnes au bon endroit au bon moment. Donc ça, c'est une série documentaire que j'ai commencé en 2017 et à ce jour, il y a 4 épisodes qui sont sortis gratuits, pareil, sur YouTube. Toute ma création, j'ai décidé de la rendre gratuite sur YouTube parce que en fait, je voulais qu'elle soit accessible au plus grand nombre et pas que ce soit limité par l'argent ou voilà. Avant, je vendais tout sur Internet, sur Vimeo, et puis j'ai décidé en fait de mettre tout gratuit en échange d'un petit don sur Tipeee ou sur Eloasso, soit pour l'association La Forêt des Enfants, pour qu'on puisse planter des arbres fruitiers partout en France, soit pour moi, pour que je puisse continuer à faire des films indépendants, 100% indépendants, parce que l'indépendance, ça passe d'abord par l'indépendance financière. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai... Mais j'avais envie aussi de laisser le libre accès à tous, à mes films, parce que je pense que la culture devrait être gratuite. Je suis un peu idéaliste, mais je pense qu'en vrai, on devrait avoir accès à tous les films gratuitement. Et on devrait être rémunéré à la vue. Ou si tout le monde donnait 1 euro, par exemple, à chaque fois qu'il regarde un de mes films, bah, en vrai, je gagnerais 5000 euros par mois, quoi. Donc voilà, rien que ce petit euro, je pense que si tous les cinéastes indépendants avaient 1 euro par film, bah, en vrai, on vivrait très bien, quoi. Voilà. Donc, et le prochain film, il s'appelle La forêt des enfants, et il parle justement de ce mouvement de plantation d'arbres qui lui-même s'appelle La forêt des enfants. Et en un an, là on est en 2023, et en un an on a créé 20 vergers conservatoires sur tout le pays, sur toute la France.
Alors, au départ, vous avez fait un premier documentaire sur la lavande. Alors, quelle idée vous est venue? Quel est le cheminement pour ce documentaire sur la lavande et ses bienfaits?
En fait, c'était avec des cueilleurs de plantes sauvages, donc axé principalement sur la lavande, même si on parle des autres plantes médicinales de la Drôme. Parce que tout simplement, mon père est un pionnier du bio dans la Drôme. Lui, ça fait 40 ans qu'il cueille des plantes sauvages et qu'il les transforme en huile essentielle. Donc j'ai été baigné dans l'huile essentielle depuis que je suis tout petit. Et j'ai commencé à cueillir dès que j'avais... En vrai, j'avais 12 ans, je pense, à ma première cueillette. Et puis après, à mes 16 ans, je me suis mis un peu plus sérieusement. Parce que c'est un travail quand même très difficile, sous le soleil, avec l'altitude, avec les serpents, les guêpes, les abeilles, les coupures. Voilà, il y a plein de dangers dans ce travail, mais en même temps, c'est très gratifiant une fois qu'on arrive à faire une huile essentielle de super qualité. Et le parfum, voilà. Et c'est marrant parce qu'en fait, plus tard, quand j'ai commencé à faire des cérémonies plus chamaniques, je me suis rendu compte que les huiles essentielles, les parfums étaient essentiel pour le coup pour se protéger tout simplement par exemple des piqûres d'insectes, des morsures, après si on parle sur le plan plus ésotérique, des mauvais esprits, parce que oui, il y a par exemple la lavande, on dit qu'elle protège du mauvais œil quoi, mais ça c'est plutôt le côté ésotérique, et sur le plan physique elle a plein de vertus aussi, donc voilà, moi j'aime bien aller voir les vertus physiques des plantes. Donc, par exemple la lavande c'est plein de vertus, c'est antifongique, cicatrisant, insecticide, comment on dit, antiseptique, relaxant, ça stimule le système immunitaire, donc oui c'est plein de bienfaits pour le physique, et ça a aussi des bienfaits au-delà, ça, certains disent que ça ouvre le troisième œil, pour la méditation c'est pas mal utilisé. Voilà, donc pourquoi la lavande? Parce que mon père était cueilleur de plantes sauvages et principalement de lavande, donc j'avais envie de parler d'un sujet que je connaissais, et pour faire mon premier film il fallait un sujet que je connaissais, et voilà, donc c'est pour ça.
Ensuite, vous avez un peu voyagé dans le monde pour aller au-delà de la lavande et des bienfaits de l'ensemble des plantes. Là aussi, quel est le cheminement que vous avez suivi?
Alors, bonne question. En fait, c'est venu sur ma route. Je suis parti vraiment en Argentine pour voyager, purement pour voyager au départ. Et à un moment sur ma route est arrivé un ayahuasquero. Donc un ayahuasquero, c'est un curandero, un guérisseur qui utilise l'ayahuasca pour guérir, soigner, partir en transe et aller justement soigner ces corps qu'on ne voit pas. On parle souvent du corps physique, mais on parle pas assez souvent des autres corps plus subtils. On parle pas souvent de l'âme, je veux dire, dans la médecine dite conventionnelle. Et ces gens-là s'appellent eux-mêmes les guérisseurs de l'âme, en fait. Donc je me suis dit, tiens, pour un occidental comme moi, c'était intéressant de chercher à creuser un peu ce côté-là. Oui.
Ouais. Oui, oui, oui. Des petits insectes tranquilles, donc voilà, donc c'est depuis tout à l'heure, donc Nikita s'est fait un copain insecte, et donc non, il est là, et donc c'est vraiment le respect de toute la nature.
Oui, 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 ouais, on s'entend bien avec la nature, de manière générale, même quand on cueille nos plantes, on fait attention aux abeilles, aux guêpes, même ceux qui sont dangereux pour nous, on les pousse délicatement de la plante avant de venir cueillir les plantes et tout. Donc j'étais sur l'ayahuasca, c'est ça, en Argentine, et oui, donc à un moment je rencontre un ayahuasquero. donc un guérisseur qui se servait principalement de l'ayahuasca pour aller purger des gens, pour aller soigner des gens, que ce soit au niveau physique ou au niveau spirituel, si je puis dire, même si on est tous spirituels dans le sens où on respire tous, donc on est tous spirituels. Qu'on le veuille ou non, on respire et on a tous le souffle divin qui nous anime. Voilà, et puis en fait, cet homme qui s'appelle César, qui est dans l'épisode 1 de Guérisseur du Monde qu'on va regarder après, m'a invité au Pérou à prendre l'ayahuasca. Et moi à l'époque j'avais un peu peur de ça, j'étais vraiment vachement cartésien, très sceptique, et puis ça, on m'avait dit fais gaffe, il y en a qui y reviennent pas, c'est vrai qu'il y a des morts, il y a des touristes qui en meurent et tout, donc c'est vrai que ça me faisait un peu peur, j'avoue. Même très peur. Et en fait, j'ai dit, bon, j'avais un peu le goût du risque, j'y ai été quand même, au Pérou. Et donc, j'ai eu la chance de partager plusieurs cérémonies avec lui. Il m'a initié à l'ayahuasca. Après, je suis rentré en France. J'ai dû digérer tout ça, parce qu'il s'est passé des choses qui n'étaient pas forcément compréhensibles pour mon intellect, pour mon mental. Et après, j'y suis retourné. Et j'ai refait des cérémonies avec lui, et là j'ai commencé à comprendre d'autres choses. Et puis après j'ai commencé à tourner la série Guérisseur du Monde, enfin qui était d'abord au départ un film qui s'appelait Guérisseur de l'âme, que j'ai après choisi d'intituler Guérisseur du Monde. Et après je suis rentré en France et César est décédé 6 mois plus tard. Donc là je me suis dit je peux pas continuer, il a fallu que j'arrête le temps de faire le deuil. Parce que même si je savais qu'il était, voilà, dans un sens on meurt jamais, parce que si on s'arrête au corps, oui on meurt, mais si on se voit comme le souffle, alors le souffle ne meurt pas, il est immatériel, et on peut même pas expliquer ce qui fait qu'on est en vie aujourd'hui ici et qu'on est là en train de parler sur une planète dont on sait que dalle. Enfin bref, il y a plein de choses mystérieuses, et même l'existence elle-même, quoi, je veux dire, est complètement mystérieuse. Et donc voilà, j'ai fait le deuil, et à un moment j'ai dit bon, j'ai fait le film Carter, et puis après je me suis dit bon, il faut que je continue Guérisseur du Monde, Guérisseur de l'âme, il faut que je continue, rien que pour rendre hommage à César. Et donc je l'ai fait, et j'ai cherché des photos de César, et j'ai contacté toutes les personnes qui avaient pris ces photos, et je leur ai dit, est-ce que je peux utiliser ta photo, est-ce que je peux avoir les droits d'auteur pour la mettre dans la série Guérisseur du Monde. Et tous les gens que j'ai contactés m'ont dit, mais bien sûr César, évidemment que tu peux utiliser mes photos, etc. Et j'ai rencontré Stefania. Donc Stefania qui est aussi dans l'épisode 1, qui est une curandera, mais elle c'est une palera. Donc ça veut dire qu'elle, elle se sert pas seulement des plantes pour guérir, mais des arbres aussi. Et des diètes d'arbres et de plantes. Donc là j'ai découvert tout un nouveau pan de la médecine traditionnelle amazonienne, parce que moi je connaissais que les plantes ou les lianes, mais j'avais jamais entendu parler des arbres, qu'on diétait aussi des arbres. Donc voilà, voilà en gros le cheminement.
Je m'appelle Matsa Tlaloc, je suis un curandero, c'est-à-dire un homme médecine du Mexique. J'étais initié à l'âge de 13 ans parce que le numéro 13 est un numéro sacré. Ça a été la base mathématique de plusieurs cultures anciennes au Mexique, et il représente les 13 étapes du développement spirituel pour accéder à ça qui est connu comme la illumination. Aussi, le numéro 13 est relié aux 13 mois de 20 jours, que c'est le calendrier lunaire maya.
Mais vous parlez de diète, alors c'est quoi exactement la diète?
Alors la diète c'est boire pendant des mois avec un régime alimentaire bien particulier des parties d'un arbre. Par exemple, vraiment pour prendre un exemple concret, si on boit l'écorce d'un arbre ou les racines ou les feuilles, c'est pas pareil quoi. Donc en fait, si on veut bosser sur nos racines, on va boire les racines. Si on veut bosser sur autre chose, on va boire une autre partie de l'arbre. Et pendant des mois, sans manger de sel, sans manger d'huile, sans sucre, sans fruits, Enfin, il y a vraiment plein de choses qu'on n'a pas le droit de manger. Là-bas, eux, c'est vraiment en Amazonie, donc au Pérou ou au Brésil. Chez eux, ils mangent du poisson de rivière. Ils n'ont pas le droit de manger de viande non plus pendant les diètes. Ils mangent du poisson de rivière, éventuellement du riz, mais c'est pas trop forcément le plus local. Mais voilà, en gros, ils ont un régime strict. Poisson de rivière et platano, donc c'est un genre de banane, mais c'est pas vraiment une banane. Je saurais même pas les. Je crois qu'on n'a pas ce fruit chez nous, donc c'est un peu compliqué d'expliquer. Ils ont un régime alimentaire strict et ils boivent cette plante tous les jours, trois fois par jour, et jusqu'à ce que l'esprit de la plante leur communique alors des cadeaux. Donc, donc les cadeaux, ça peut être sous forme de chants. Donc les Icaros, les fameux Icaros, donc ce sont des chants médecine qui vont pouvoir être utilisés après dans les cérémonies comme des guides en fait. Les chants sont des vibrations et ouvrent des portes dans l'invisible qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne comprend pas forcément. Mais en tout cas, ces chants, ces vibrations, ces mots qu'on utilise, que les plantes ont pu nous apprendre, vont nous aider à aller guérir certaines choses en cérémonie. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer avec l'intellect parce que c'est tellement incompréhensible d'un point de vue scientifique même. Et en même temps, ça s'explique, hein, les vibrations après, que voilà, elles ont un effet sur notre corps, etc. Mais de notre point de vue cartésien, etc., c'est assez compliqué à comprendre tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Une fois qu'on l'a expérimenté, on l'intègre dans nos cellules et on comprend. Mais tant qu'on ne l'a pas intégré dans nos cellules, ça peut paraître assez abstrait. Et moi-même, j'ai du mal à poser des mots sur ce qu'on vit lors de ces cérémonies, parce que les mots sont très limitants, alors que l'expérience, elle, est complète, quoi. Elle est pas juste, elle s'arrête pas à un mot, c'est vraiment dans tout notre être, dans toutes nos cellules, on va intégrer cette expérience, et donc forcément, elle va devenir concrète. Mais alors après, la traduire avec des mots, ça, c'est plus difficile.
Mais dans ce premier épisode que l'on va voir ce soir, en fait, les spectateurs doivent s'attendre à quoi ? À aller au-delà de leurs limites ?
Ouais, ça peut déranger des gens. Certains, les cartésiens vont être très dérangés par l'épisode. ils vont préférer l'épisode 2 qui est beaucoup plus cartésien, beaucoup plus terre-à-terre. L'épisode 2, et voilà, j'ai voulu parler à tous les publics. Moi, ce que je préfère, c'est le côté plus mystique, plus, si on dit un mot qui va parler, c'est plus spirituel. Et d'autres vont préférer le côté plus cartésien, comment on se soigne, comment on se détoxifie, quelles plantes, quelque chose de plus terre à terre. Voilà. Moi, ce que je préfère, c'est parler plutôt d'abord de l'esprit, du souffle, de ces plantes mystérieuses et magiques. Et après, chacun se fait sa propre opinion. On n'est pas obligé de me croire. D'ailleurs, moi, si on m'avait dit ça il y a quelques années, je n'aurais pas cru ce qu'on me dit. Donc tant mieux. Moi, je pense qu'il faut garder un scepticisme par rapport à ces choses-là et que c'est très sain. Moi, je l'ai gardé pendant jusqu'à ce que j'ai la preuve du contraire. Et donc, je pense que la seule façon... alors, c'est de ne pas me croire sur parole. Il faut regarder cet épisode et ne pas me croire. Et c'est très sain, en fait, de ne pas croire bêtement ce qu'on nous dit et de ne pas recracher bêtement ce qu'on nous dit. Il faut se faire sa propre expérience. Et si on a envie de voyager dans ce monde-là, on peut. Si on n'a pas envie, on n'y va pas. Tout le monde peut respirer. Et il n'y a pas besoin forcément de prendre des plantes qui nous mettent en transe pour aller dans ces mondes-là. On peut y aller par la respiration, par la méditation, par le yoga. Il y a plein de façons d'aller dans ce monde-là. Et il n'y a pas besoin forcément de prendre des plantes psychotropiques qui vont nous mettre dans un état de transe. On n'est pas obligé de passer par là. Moi, ça a été mon chemin, donc je l'ai transmis par des images, par des sons, donc par un film, par des films. Mais chacun est libre de prendre son chemin. Moi, ça a été mon chemin. Je ne dis pas que tout le monde doit prendre ce chemin-là, au contraire. Attention avec ces plantes-là, attention avec les gens qui donnent ces plantes-là. Ils ne sont pas toujours bien intentionnés, il y a un gros business derrière. Moi je l'ai fait parce que j'étais en confiance, que j'avais rencontré les bonnes personnes au bon moment, qu'il n'y avait pas d'histoire d'argent, c'était des échanges de plantes, de savoir, de connaissances. Par exemple, quand j'allais voir Francisco qui est dans l'épisode 4, moi j'amenais du bois pour le Temazcal, pour la hutte de sudation. Donc ça se faisait comme ça l'échange. J'achetais du bois, je lui amenais du bois, ce qui permettait à tout le monde de faire la cérémonie. Ça peut être aussi ça l'échange. Mais en revanche, quand c'est un échange que pécunier, je dirais, là, il faut pas se méfier systématiquement, mais quand même faire attention. Si on vous demande 1000 euros pour une cérémonie, bah là, méfiez-vous, quoi. Si on vous demande 70-100 euros, bah, je trouve que c'est assez honnête pour une cérémonie d'ayahuasca, par exemple, parce qu'il faut quand même faire venir la médecine du Pérou, même si c'est en Argentine. Hein. Il faut faire venir la médecine du Pérou, il faut que les peuples premiers qui vivent là-bas y vivent aussi. Eux aussi ont besoin d'argent. Tout est histoire d'équilibre. Donc les spectateurs, il y en a qui vont être séduits, il y en a qui vont trouver ça bizarre. C'est ok, de toute façon, toutes les émotions sont bienvenues.
Joris et son équipe vous emmènent en balade du côté des films produits près de chez vous. When you lose someone you love, when you lose someone.
Notre invitée Nikita Gwezal interprète Something New au parc Egoland. Carole l'a rencontré pour parler de ses productions cinématographiques puisqu'il est aussi réalisateur. Il évoque notamment le respect de la nature et de la transmission de la terre avec le film La forêt des enfants sur Radio Scarpe Sensée.
Zoom sur les métiers du cinéma dans Scarpe Ciné. Entrez dans le monde des tournages.
Alors, depuis tout à l'heure, je pense à une chose, c'est l'expression qui arrive dans ma tête depuis qu'on parle, c'est « sève de boulot ». Nous, là, on va dire dans notre région, on a des gens, je sais que dans mon village, il y a une dame qui a un boulot et qui attend patiemment cette sève de boulot. On est aussi dans cet esprit-là ?
Ah oui, complètement. Ça, c'est les plantes de chez nous, les arbres de chez nous. Moi, je suis franco-ukrainien, par exemple, et en Ukraine, tous les printemps, fin d'hiver, on se fait une détox à la sève de bouleau. Et c'est carrément ancré dans les traditions. Et ici, c'est pareil. Je pense que dans nos traditions, on a nos arbres chez nous, on a nos chênes, on a nos châtaigniers, on a nos bouleaux, on a nos plantes et nos arbres endémiques à nos régions, à nos pays, à nos latitudes. Et eux aussi ont plein de vertus, eux aussi sont magiques. Tout le monde du végétal est magique. Tout le règne végétal et animal est animé par une même intelligence qui est incompréhensible par l'intellect, qui nous surpasse, qui est animé par quelque chose qu'on ne comprend pas toujours scientifiquement, mais qui est là quand même. Donc oui, la sève de bouleau, carrément, je recommande d'ailleurs.
Bien, vous avez aussi, donc, vous nous en avez parlé tout au début, ce projet La Forêt des Enfants. Donc, c'est à la fois un projet concret, mais c'est aussi un projet de film.
Pendant un an, on a créé 20 vergers conservatoires. Donc 750 arbres fruitiers plantés sur 20 lieux différents un peu partout en France. Il y a une carte qui sera disponible bientôt sur la page La Forêt des Enfants, sur YouTube, etc., là où on communique, et qui va être évolutive, hein, puisqu'on va continuer de planter des arbres toutes les périodes de plantation, de la mi-novembre à la mi-mars chaque année. Donc au départ, c'était vraiment un projet concret de planter des arbres avec des enfants pour transmettre tous les savoirs relatifs aux plantations d'arbres aux enfants, en même temps qu'on agissait concrètement pour la protection de l'environnement, de la diversité fruitière. Et puis par la suite, oui, je me suis dit, bah, t'es cinéaste, donc transmets ce mouvement par des images, par des sons, parce que je pense que c'est mieux que par juste des mots. C'est pour ça que j'utilise les images, hein. C'est parce que les plantes m'ont aussi appris que c'est comme ça qu'elles apprennent aux humains, avec des images et des sons et des émotions. Et je me dis, bah, qu'est-ce qu'il y a chez nous pourrait nous permettre d'utiliser ces moyens qu'utilisent les plantes pour nous apprendre, mais sans prendre ces plantes qui peuvent faire peur à beaucoup de gens. Bah, les films, on avait les films. On avait le 7e art. Je me suis dit, bah, ok, bah, moi je sais faire du montage, je sais faire du tournage, je sais faire de la musique. Je vais mettre tout ça ensemble et faire un film, comme j'ai déjà fait des films avant. Et donc je me suis dit, bah, on va faire un film qui s'appelle La Forêt des Enfants pour raconter ce qu'est la forêt des enfants.
Et donc, ce projet, il est né il y a quelques années déjà. Et comment on en est vraiment arrivé à dire il faut que les enfants soient acteurs de ça?
Je pense que c'est important de sensibiliser les enfants parce que, alors déjà, d'une part, ça leur permet de remettre les mains dans la terre à une période où on est tous scotchés sur nos écrans, etc. Les reconnecter à la terre par ce biais-là, par le biais des plantations d'arbres. Aussi, au-delà de ça, ça permet de se projeter. Donc, ça permet de faire d'eux des acteurs du monde de demain. De planter des arbres et de se projeter sur 20 ans, parce qu'on sait très bien, quand on plante un arbre, on en a pour 10 à 20 ans avant d'obtenir des fruits, de pouvoir prélever des greffons sur les arbres, de pouvoir les greffer sur d'autres arbres. C'est vraiment quelque chose qui se voit sur le temps long, les plantations d'arbres, et c'est un peu ça dont on avait besoin, je trouve. C'est aussi de pouvoir se reprojeter dans un avenir serein, et en même temps de se dire, bon, ben, il faut former des mini planteurs d'arbres pour demain, parce que ça doit devenir un métier, ça doit devenir un métier reconnu par les institutions, les administrations, parce que c'est un enjeu de sécurité publique et c'est d'intérêt général. Donc je me suis dit, on va faire ce que des ingénieurs forestiers comme Ernst Zürcher préconisent, c'est-à-dire créer un métier de planteur d'arbres et former des petits planteurs d'arbres dès le plus jeune âge. Et peu importe que ce soit pas dans un cadre bien défini, je me suis dit, l'important, c'est pas le cadre, c'est de le faire, quoi. C'est de les former, de leur expliquer, bah voilà, tu vois, tel arbre, il va donner tel fruit, et on le plante petit parce que comme ça, il va mieux s'adapter à ce type de sol. Après, on leur montre un peu la faune du sol, la microfaune du sol. On leur apprend aussi pourquoi on plante telle essence d'arbre à tel endroit, et pourquoi on ne plante pas un amandier dans le nord. Enfin, après, on peut essayer, on expérimente aussi des choses, mais pourquoi on plante un abricotier à l'abri sur le coteau? Pourquoi on plante pas un abricotier plein nord? Bah parce que, en fait, abricotier, ça veut dire à l'abri sur le coteau. Donc voilà, plein de choses comme ça, des savoirs des anciens qu'on essaie de retransmettre aux enfants de manière concrète où on mêle la théorie à la pratique systématiquement. Tous les dons que je reçois, je les réinvestis dans l'achat des arbres. J'ai planté 700 arbres avec des centaines de personnes partout en France.
On axe beaucoup sur l'arbre parce que l'arbre a une symbolique, voilà, il permet de se projeter, il nous permet de respirer, il nous permet de manger, il nous permet de filtrer l'eau.
En fait, on forme des mini planteurs d'arbres.
La planète est vit que des arbres, alors il faut faire une forêt. Comme ça, on pourra manger au moins ici, parce qu'on a faim. Ce sont les arbres, c'est 100% pur.
C'est 100% pur.
Ouais. Faut pas les détruire, sinon on a zéro pur.
Bienvenue à la forêt, les enfants!
Et en fait, je pense aussi à une projection qu'on a eue il y a quelques semaines au Majestic de Douai d'un documentaire qui s'appelle La Belle Ville, une belle ville, où en fait des jeunes partent un peu partout dans le monde pour voir ce que pourrait être une belle ville. Et on voit des arbres fruitiers qui sont plantés dans la ville. Et l'importance de ces fruitiers.
Ah bah, je soutiens à 200%. dès qu'on plante des arbres, moi je soutiens. Après, il faut bien faire attention, voilà, quel type de fruits, prendre des variétés anciennes, diversifier, parce qu'en fait, on a une diversité fruitière énorme en France et partout dans le monde. Donc ouais, je soutiens à 2000%, les enfants, il faut les sensibiliser à ça. Souvent, quand on sensibilise les enfants, les parents, par effet de voilà, domino, sont sensibilisés. Ouais, je n'ai rien d'autre à dire que je soutiens.
Et pourquoi alors des espèces anciennes pourquoi pas des espèces nouvelles? Quelle est l'importance de l'espèce ancienne?
Alors les espèces, les variétés anciennes sont super importantes dans le sens où elles sont plus résistantes aux maladies, parce qu'à l'époque on n'avait pas de pesticides de synthèse, on avait des pesticides et des insecticides naturels, mais on n'avait pas toute la chimie qui arrivait après les dérivés des gaz de combat, après la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et on n'a pas voulu laisser ces deux industries se casser la figure. Donc on les a sauvées et on a fait tout un business autour des pesticides. Après, on a créé en laboratoire des variétés qui étaient résistantes à certains pesticides, etc. Et finalement, on se rend compte que tout le monde aujourd'hui est intoxiqué aux pesticides, empoisonné, si je puis dire. Et donc, on se dit, il serait peut-être temps de faire machine arrière. Et de tout simplement aller voir comment faisaient les anciens. En fait, ils sélectionnaient des variétés pour leur goût, pour leur résistance au froid, pour leur résistance à certaines maladies. Et nous, on veut vraiment garder ce patrimoine qui nous appartient à l'humanité. En fait, il appartient à l'humanité. Hein. Les semences anciennes, les arbres de variétés anciennes, c'est un patrimoine mondial et régional et après national, mondial. Et qu'il faut conserver, et nous on veut s'inscrire dans cette protection de cette diversité, de ce patrimoine, et le protéger vraiment concrètement en le multipliant à un maximum d'endroits, au plus d'endroits possible.
Comment on les trouve? Comment on les trouve ces arbres? Parce que ils doivent être aujourd'hui plus forcément dans les catalogues officiels. Donc il faut que vous ayez un partenariat avec des pépiniéristes.
Oui, on a des partenariats avec une pépinière en particulier qui elle ne fait que de la variété ancienne rare et rustique. Et il y a d'autres façons aussi de se procurer ces variétés anciennes résistantes, c'est tout simplement d'aller dans nos campagnes, de prélever des greffons sur des variétés qu'on retrouve, hein. Parfois on retrouve des vieux pommiers de variétés anciennes, alors peut-être que la pomme va pas être bonne à manger. Mais c'est pas grave, en fait, si elle est pas bonne pour l'humain, elle peut être aussi bonne pour les souris et toute la faune, donc tous les animaux sauvages peuvent s'en nourrir. Et derrière, on est sûr que l'arbre va être résistant aux maladies. Donc peut-être que oui, ça va pas nous nourrir nous, mais peut-être que ça va nourrir d'autres animaux. d'autres insectes. Ça va de toute façon nourrir les abeilles en faisant des fleurs et ça va être bénéfique pour la nature. Et si c'est bénéfique pour la nature, par effet boule de neige, c'est bénéfique pour nous à l'arrivée. Donc voilà, soit aller dans des pépinières spécialisées dans les fruitiers anciens, pas dans des jardineries dont je citerai pas les noms, qui font vraiment que des choses inscrites dans les catalogues et en collaboration avec ces laboratoires qu'on aimerait bien qu'ils disparaissent, et aller plutôt dans les conservatoires, les vergers conservatoires, les pépinières spécialisées dans les fruitiers anciens. Et en plus, c'est des gens qui ont non seulement qui ont une éthique, mais qui en plus font ça par amour souvent de la diversité, du fruit, du goût. Donc après, on retrouve là-dedans toute la qualité et pas la quantité de production. On trouve vraiment une qualité de production, une qualité de nutrition avec des fruits qui sont plus riches en vitamines, en des super fruits. Voilà, c'est des meilleurs aliments. On a besoin d'en manger moins, mais on est en meilleure santé aussi en les consommant. Donc aller vers les gens qui préservent ce patrimoine.
Les Romains, on a un peu l'idée que comme ça, ils faisaient rôtir le bœuf et puis manger comme ça. Ben non, pas du tout. Alors pour les esclaves, ouais. Pour les légionnaires et pour les esclaves, il y avait du bœuf, ouais. Mais pour les hommes libres, certainement pas. Parce que ça fait longtemps qu'on sait que la viande de bœuf, on a beaucoup d'études qui parlent de ça depuis très longtemps. Et d'ailleurs, c'est le grand business pharmaceutique qui est beaucoup monté là-dessus. C'est qu'on n'est pas fait pour manger de la vache. Donc notre cerveau, il n'est pas au top. Alors c'était bien pour les esclaves, c'était bien pour la Légion. Mais il y en a d'autres, hein. C'est que les Romains, ils savaient beaucoup de choses. Les Romains, ils savaient aussi que le blé que nous, on utilise pour faire notre pain blanc, le blé des brioches, le blé comme ça, c'est un blé qui est un blé fourragé. C'est un blé à vache, c'est un blé à animaux. Le blé traditionnellement utilisé dans l'alimentation humaine, c'est le blé dur. Donc dans les blés, donc les vieux blés ou des blés, mais qui n'ont pas autant de charge amylante. Nous, actuellement, on mange donc ce blé fourragé. Et c'est celui qui est consommé par la grande majorité de la population
qui était destiné
française.
Aux,
et qui avant était destiné aux animaux. Parce que ce blé, il a une particularité, c'est que ses sucres et ses amidons vont former des chaînes qui sont très près des chaînes des opiacés. Et donc, ça fait fonctionner... un réceptacle dans le centre du cerveau qui fait que ça donne une sensation d'apaisement, de satiété, de tranquillité, de tout. Voilà. Donc le pain blanc, c'était pour la Légion. C'était pas pour l'homme libre, c'était pour le légionnaire, c'était pour l'esclave. Parce que quand il s'échappait, il n'y avait pas besoin d'aller le chercher. Au bout de 15 jours, il revenait tout seul. Il lui manquait son pain blanc. Puis le pain blanc, il va en trouver qu'à la Légion et puis dans les endroits où il y a des esclaves. Quoi. Voilà. Alors il y a plein de petits détails comme ça historiques qui sont très marrants. Hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Donc on connaît les aliments et le comportement humain vis-à-vis de ce qu'ils mangent depuis très longtemps.
Et je me souviens dans une pâture chez mes grands-parents, mais les arbres ont disparu, il y avait un pommier qui avait, en fait quand on faisait cuire la pomme, il y avait un goût de banane. Alors je ne sais plus comment s'appelait cette pomme ancienne, et puis le pommier est mort malheureusement, et donc je me dis peut-être qu'un jour on retrouvera cette essence particulière, puisque c'était vraiment particulier, on l'a mangée comme ça, elle avait un goût de pomme, et puis une fois cuite, eh bien elle avait ce goût de banane. Donc peut-être qu'un jour vous retrouverez cette essence de pommier.
Yes, on va chercher, je vais en parler à mes amis planteurs d'arbres et pépiniéristes et on va faire l'enquête, mener l'enquête.
Installez-vous, écoutez, regardez, vivez le ciné sur Radio Scarpe Sensé.
Close your eyes, you're more than you think you are. To the sound of your breathing, dive within, and let yourself go. Now is a turn. There's nothing this world can bring to you permanently. Just remember you're perfect as you are, as you are. Oh, oh. Is eternal. Your roots are made of love. Your roots are made of love. Your roots are made of
Nikita Gwezel, Roots of Love. Vous pouvez aussi le retrouver derrière la caméra pour voir ses films, notamment la série documentaire Les Guérisseurs du Monde, Kerter, et la bande-annonce La Forêt des Enfants. Vous pouvez retrouver tout ça sur nikitagwezel.com. Merci à Nikita et à Carole pour l'interview enregistrée à l'écolande de Paluel. On arrive déjà à la fin de l'émission, mais avant, la rubrique à l'affiche.
Avant-première, débat, événement, à l'affiche dans votre cinéma.
Et c'est jusqu'à dimanche, dimanche 4 juin, c'est la 30e édition du FIGRA, le Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, avec des projections, des débats, du théâtre, des expositions, des photos et des livres. La programmation est à retrouver sur figra.fr et puis jusqu'à vendredi, c'est des plateaux directs à 18h sur Radio Scarpe Sensé et des chroniques tout au long de la semaine sur les films de la sélection. Merci encore de votre fidélité. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours pour parler de cinéma en région avec Carole. Et d'ici là, vous le savez, allez au cinéma.
Scarpe Ciné, séquence 12. Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarpe Sensé, ça tourne.
Et action !